RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la rubrique « Monde d'Indonésie ». Et ensuite, vous pouvez également écouter magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Serviteurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Examiné de la gestion de l'impact des tremblements de terre, le président tient une réunion limitée à Lombok du Nord. L'Indonésie organise le 7e Forum mondial de la paix. Attendre la zone éloignée du nord de Lombok, le président ordonne aux chefs militaires indonésiens de mobiliser des hélicoptères pour obtenir de l'aide. L'exposition de Pariaman cible les transactions des consommateurs étrangers. Et enfin, l'hôpital est capable de faire face à la mondialisation. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a dirigé une réunion limitée sur la gestion de l'impact du séisme à Lombok du Nord, à Nusa Tenggara Ouest. La réunion a eu lieu après que le président ait examiné directement un certain nombre de postes de secours après le séisme dans la région de Lombok du Nord lundi. Un certain nombre de parties liées à la gestion de l'impact de tremblement de terre ont assisté à la réunion limitée, y compris le ministre des Travaux publics, Basuki Hadi Mulyono, le chef d'état-major du président, Muldoko, le gouverneur de Nusa Tenggara Ouest, Muhammad Zainul Majdi, le chef de la police nationale, le général Tito Karnavian, le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou BNPB, Willem Rampangile, et le chef de l'Agence nationale de SAR, Muhammad Shawgi. Dans sa direction, le président Joko Widodo a demandé à son personnel d'assurer réellement le nombre de bâtiments dans lesquels les résidents vivaient et qui avaient subi des dommages graves ou modérés. En outre, le président a également demandé que le gouvernement et ses rangs soient en mesure de soumettre immédiatement une assistance pour réparer les domiciles des résidents. Cette assistance sera fournie à la base du niveau de dommages aux habitants des personnes, à la fois sévèrement et modérément et légèrement endommagés. Avec le transfert de l'assistance, le président espère que le processus de réhabilitation et de reconstruction pourra être mené immédiatement.
Dimulai besok pagi, akan segera kita serahkan bantuan untuk rumah yang rusak berat.
Je pense qu'à partir de demain matin, nous remettrons immédiatement l'aide à une maison gravement endommagée et j'espère que demain, au moins 1000 personnes pourront être remises. Ensuite, veuillez remettre immédiatement l'assistance pour les réparations à domicile et commencer à être effectuée par zone pour que le TNI et Polri ainsi que BNPB accompagnés de PU puissent les nettoyer d'abord. Par exemple, dans quel sous-district il peut être planifié, organisé pour qu'il y ait les activités économiques, notamment à Lombok du Nord. En ce qui concerne le développement économique de la communauté après le séisme, le président a également demandé que le processus de reconstruction des installations publiques, en particulier des marchés, devienne également l'attention du gouvernement. Le président a demandé au ministère des Travaux publics et du logement public de pouvoir inviter le public à utiliser les installations du marché après la réhabilitation et la reconstruction. Selon les résultats de la réunion du cabinet récemment à Jakarta, le président a demandé au ministère des Travaux publics et du logement public d'impliquer la communauté dans le processus de reconstruction des maisons endommagées par le séisme. Le président veut que la construction de logements communautaires soit construite avec une construction antisismique. Din Shamsuddin, envoyé spécial du président indonésien pour le dialogue interconfessionnel et le dialogue entre les civilisations, a déclaré que sa partie avait de nouveau organisé le 7e Forum mondial de la paix à Jakarta du 14 au 16 août 2018. Le forum s'est tenu en collaboration avec le Centre pour le dialogue et la coopération entre les civilisations, ou CDWC, et l'organisation non gouvernementale malaisienne Cheng Ho Multicultural and Education Trust. Le thème du 7e Forum mondial de la paix était « La voie du milieu pour la civilisation du Nouveau Monde ». Dans son communiqué de presse lundi à Jakarta, Din Shamsuddin a souligné que le 7e WPF n'était pas un dialogue interreligieux. La portée est plus large car elle implique diverses parties ayant des arrière-fonds différents, tels que des chefs religieux, des militants pour la paix, des décideurs et des universitaires.
Ini bukan dialog antara umat beragama, bukan interface dialogue. Jadi ada agamawan, para tokoh agama, dan
ce n'est pas un dialogue entre religieux. Il y a donc des chefs religieux et des représentants des assemblées religieuses internationales, des représentants du Vatican, WCC, World Buddhist Fellowship, l'association Andu, l'organisation internationale islamique et de diverses personnalités religieuses, y compris des juifs, seront représentés. Mais en plus des personnalités religieuses, il y a aussi des personnalités scientifiques, des intellectuels, un certain nombre de professeurs impliqués dans la création dans ce monde seront également présents. Din Shamsuddin expliquait que parmi les centaines de participants présents, un certain nombre d'invités importants avaient confirmé leur participation au 7e WPF, notamment l'ancien premier ministre du Timor-Leste, Sanana Gusmao, et l'ancien président du Timor-Leste, Marie Alkatiri. Le président de la Fédération de Micronésie, Peter Christian, et le ministre russe des Affaires étrangères, K.V. Suvalov, sont également présents. Du Moyen-Orient, Mahmoud Al-Habash, conseiller du président palestinien en charge des questions religieuses et des affaires islamiques, et le secrétaire général du King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue Center est présent. Monseigneur Gunnar Stalset, ancien président du World Religion and Peace, ainsi que plusieurs autres personnalités importantes de 40 pays et organisations internationales sont également présents. Le président Joko Widodo a ordonné au chef militaire indonésien, le maréchal Hadi Cahyanto, de mobiliser des hélicoptères appartenant à l'armée nationale indonésienne comme aide pour atteindre la région reculée du nord de Lombok affectée par le séisme. La déclaration a été affirmée après avoir observé la gestion du séisme et la société touchée par le séisme lundi dans la résidence du nord de Lombok dans la province de Nusa Tenggara Ouest. Le président Joko Widodo a admis qu'il y avait plusieurs régions de la région éloignée du nord de Lombok qui sont difficiles d'accès pour obtenir de l'aide. Le facteur est dû au terrain compliqué qui doit être conquis pour atteindre la zone éloignée.
Kita harus tahu ya bahwa terutama di Lombok Utara dan di Lombok Barat ini menyangkut kecamatan yang sangat tua sekali.
Nous devrions savoir que le nord et l'ouest de Lombok sont des sous-districts incroyablement vastes. Par conséquent, il existe plusieurs zones qui n'ont pas encore été exposées à l'aide et gérées, en particulier dans les sous-districts de Bayan et de Kayangan. Bien que certains sous-districts et villes aient été accédés, Il y a encore à Hong Kong à trois villages qui n'ont pas été touchés dans les deux sous-districts. La difficulté est affectée par la position des zones situées sur la route menant au sommet du Mont Rinjani et on ne peut pas y accéder par des motos ou même par des voitures. Ce problème n'a pas encore été résolu. Il y a environ un à trois villages sur lesquels nous devons nous intéresser, mais le terrain pour les atteindre est très difficile. Cependant, j'ai ordonné au chef militaire de résoudre les problèmes. Comme ici, nous avons quatre hélicoptères qui peuvent être utilisables. Cependant, nous devons garder à l'esprit que le terrain n'est pas facile d'accès. Pendant ce temps, en ce qui concerne la question de l'assainissement, le président Jokowi a déclaré que jusqu'à présent, le gouvernement avait fourni 90 installations sanitaires d'urgence. Selon le président Jokowi, ce nombre continuera d'augmenter avec les 200 installations sanitaires supplémentaires en route vers le nord de Lombok. Le président Jokowi a déclaré que le nombre allait augmenter compte tenu de la forte demande d'installations sanitaires pour la société touchée par le séisme. Le président Jokowi Dodo continuera à calculer le besoin de la société touchée par le tremblement de terre pour identifier ses besoins et les efforts déployés pour les fournir. Le gouvernement de la ville de Pariaman, à l'ouest de Sumatra, a organisé l'exposition de Pariaman 2018 dans la zone touristique de la place de Gandoria. L'événement de cette année cible les transactions des consommateurs à l'extérieur de la province aux pays étrangers. Différent de la mise en offre de l'année dernière qui ciblait davantage les consommateurs de la province. Comme rapporté Republica en ligne, le chef du service de l'industrie, du commerce et des micro, petites et moyennes entreprises de la ville de Pariaman, Gusniati Zonit à Padang, dimanche a affirmé il cible 20 000 visiteurs pendant l'exposition de Pariaman 2018 tenue du 12 au 19 août. La municipalité de Pariaman estime également une augmentation du nombre de transactions de 50% à 3 milliards rupiah gagnés de transactions en 2017, s'élevé à 2 milliards de dollars américains. Il a ajouté que pour atteindre cet objectif, il a fait la promotion de l'activité depuis quelques jours plus tôt à d'autres provinces comme Riau, Jambi et Bengkulu. La ministre de la Santé, Nila Mulluk, a déclaré que l'hôpital est tenu de pouvoir faire face à la mondialisation en offrant le meilleur service de santé à la société. En 2019, l'Indonésie planifiera la couverture sanitaire universelle. Cela signifie que l'ordre de service sera rétabli, surtout à l'hôpital. C'est ce qu'a déclaré la ministre Nila Mulluk lors de la 90e anniversaire de l'hôpital régional Pirngandi, Medan, dans le nord de Sumatra, lundi. La ministre a également expliqué que l'hôpital jouait un rôle dans la mise en place de garanties de santé nationale et d'efforts de développement en tant qu'hôpital de référence. La ministre a également déclaré qu'à l'heure actuelle, l'Indonésie entre dans l'ère de la mondialisation avec le développement de tous les secteurs, y compris la santé. En outre, la ministre a déclaré que la communauté continuait de penser que les services de santé ne sont pas encore optimisés et que cela devient le défi de l'Indonésie pour l'avenir. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, les différents commerciaux entre l'Indonésie et les États-Unis. En novembre de l'année dernière, le président Donald Trump a tweeté avec un ton menaçant sur Twitter, comme s'il semblait avertir les pays partenaires commerciaux des États-Unis, en particulier en Asie, de se préparer aux conséquences des échanges commerciaux avec les États-Unis de manière injuste. Le tweet de Trump existait 4 jours après l'annonce de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, qui rejetait la paix de l'Indonésie et gagnait les États-Unis et la Nouvelle-Zélande en cas de différend commercial qui est considéré comme restriction ou obstacle aux importations horticoles indonésiennes. Pour les États-Unis, le rejet par l'OMC de la paix de l'Indonésie à une décision de conflit qui existe depuis la fin décembre 2016 a été une grande victoire. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, lutte contre un déficit commercial croissant atteignant 566 milliards de dollars américains en 2017. La nouvelle étape de cette affaire qui a attiré l'attention de l'Indonésie était la demande des États-Unis lance un appel à l'OMC pour qu'elle inflige une amende de 350 millions de dollars à l'Indonésie en raison des pertes subies par les États-Unis en 2017. La raison, car 8 mois après la décision de l'OMC de novembre 2017 jusqu'au 22 juillet 2018, l'Indonésie était considérée comme n'ayant pas respecté les recommandations de l'OMC. Cependant, l'Indonésie considérait l'argument des États-Unis sans pertinence. L'Indonésie a prétendu avoir obéi et révisé la politique contestée par les États-Unis. L'Indonésie a insisté pour procéder à divers ajustements ou révisions de politique conformément aux recommandations formulées par l'organe de règlement des différends ORD de l'OMC. L'une d'elles était l'ajustement des dispositions de la recommandation sur l'importation de produits horticoles dans le règlement du ministre de l'Agriculture ou permettant numéro 60 de 2012 qui a été refusé deux fois en 2013 et est devenu plus tard permettant numéro 47 2013. Cependant, les États-Unis sont considérés comme la recommandation relative à l'importation de produits horticoles dans le cadre de la restriction du commerce qui n'est pas conforme à la politique commerciale internationale. La recommandation sur l'importation de produits horticoles est une sorte de contrôle des importations conforme aux besoins et aux intérêts des agriculteurs et des éleveurs dans le pays. Un autre règlement révisé était le règlement du ministre du Commerce, Permendag, numéro 60-2012, concernant les dispositions relatives à l'importation de produits horticoles ou KIPH. En outre, l'Indonésie a également remis en question le montant de 350 millions de dollars. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 14 août 1945, le Japon a capitulé aux forces alliées. Le 14 août 1945, le Japon a annoncé sa reddition sans condition aux alliés et se terminant efficacement la Seconde Guerre mondiale dans la zone du Pacifique. La soumission du Japon auprès des alliés, puisque les États-Unis ont largué la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki, le 6 et 9 août, qui a tué environ 200 000 Japonais. Depuis lors, le 14 août, le 15 août ont été connus comme le jour de la victoire sur le Japon. Le 14 août 1950, la création de la province de Kalimantan du Sud, après la dissolution de la République des États-Unis, d'Indonésie ou RIS. Cette province possède 11 districts et 2 villes. Dans le passé, la province de Kalimantan du Sud fait partie de 3 grands empires qui ont eu la région dans cette zone, à savoir le royaume du Pays Daha, l'état de Dipa et Sultanat de Banjar. La majorité de la population de Kalimantan du Sud est l'ethnie Banjar, qui se compose de 3 groupes, à savoir Banjar Kuala, Banjar Pahuluan et Banjar Batang Banyu. Il y a aussi Javanese, Madure et Sundanese qui sont venus en tant que migrants, y compris l'ethnie Bugis et Mandar, originaire de Sulawesi. Le le 14 août 1961 la naissance du mouvement Scout Indonésien. Le mouvement Scout Indonésien est le nom de l'organisation de l'éducation non formelle en Indonésie. Le mouvement Scout en Indonésie depuis longtemps était connu comme l'organisation nationale du mouvement Scout qui a le plus de membres dans le monde. Le but de commémorer la journée Scout en Indonésie pour créer une nation ayant le caractère et la dignité par les activités de Scout. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée « La valeur de Pancasila devient l'adhésif de la vie de la nation ». Pancasila en tant qu'idéologie sera forte et existe dans la vie nationale si Pancasila est implémentée dans le comportement des citoyens. Cela a été dit par le ministre indonésien de la Défense, M. Ria Mirza Triakudu, lors d'une conférence publique à l'Université de Tarumanegara mercredi. Selon lui, l'existence de l'idéologie de Pancasila à l'ère moderne était menacée aujourd'hui. Cité par Compass.com, le ministre de la Défense a admis qu'il s'inquiétait d'une infiltration idéologique, ce qui est contraire à Pancasila via la rapidité de la technologie et de l'information. Pancasila est très important pour être compris car il y a beaucoup d'idéologies dans le monde, comme les libéraux, les socialistes et les communistes. Selon le ministre Ria Mirza Triakudu, ces trois idéologies peuvent être vaincues par les valeurs contenues dans Pancasila. Les valeurs de Pancasila deviennent l'unification de la nation indonésienne jusqu'à présent. Par conséquent, M. Ria Mirza a demandé que des valeurs idéologiques de Pancasila étaient renforcées dans la communauté, y compris sur les campus. Le campus développe l'intelligence de la communauté du campus et développe également une vision nationale. Le ministre de la Défense a souhaité que les étudiants puissent continuer à améliorer leurs compétences et leurs capacités afin de réaliser les idéaux de la nation et devenir un leader qui peut donner une solution à tous les problèmes. Le président du Parlement indonésien, M. Bambang Susatyo, a demandé aux jeunes de mettre en œuvre les valeurs Pancasila dans la vie quotidienne. Selon lui, il était prouvé que Pancasila était jusqu'à présent pour devenir une fondation qui renforçait la diversité de la nation indonésienne. Comme cité par FIFA.com, selon lui, sans Pancasila, la nation indonésienne se désagrégeait. Sans les jeunes hommes, avec l'esprit Pancasila, le peuple indonésien sombrera dans l'ombre. Cela a été dit par Bambang Susatyo au séminaire national sur le renforcement de la vision nationale d'US, organisé par le Conseil central du Comité national de la jeunesse indonésienne, ou DPP-KNPI, conduit Surabaya, Java Est. Bambang a demandé au Comité national de la jeunesse indonésienne d'être la locomotive de la jeunesse et pratiquer Pancasila comme un adhésif pour la vie de la nation et de l'État. Il a également souligné l'importance de rédiger le projet de loi sur la stabilisation et la mise en œuvre de l'idéologie Pancasila. Ainsi, Pancasila peut être pratiqué de façon durable dans tous les aspects de la vie, notamment dans la vie des jeunes comme l'avenir de la nation. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
dan hatimu. Berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Persona Indonesia. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec le magazine culturel, introduisant la plage Amuk Bay à Bali. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. Bali est l'une des destinations touristiques préférées en Indonésie. De nombreux touristes viennent à Bali pour profiter de la beauté de la plage. La plupart d'entre eux visitent généralement des plages populaires telles que la plage Kuta et la plage Pandawa. Il n'est pas donc surprenant que ces deux plages soient toujours bondées de touristes. Pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas la foule et aime le tourisme de la plage tranquille, vous pouvez voyager à l'est de Bali. Il y a la plage Amuk Bay. Son emplacement est dans le village Antiga, sous-district Manggis, en région Karangasem. Pour arriver à cet endroit, depuis l'aéroport Ngurah Rai, c'est environ 56,4 km ou 1h et 30 minutes. En voiture. Après l'arrivée à la plage Amuk Bay, une bande de sable blanc mélangée au sable noir apparaîtra. Sur le côté droit de la plage, si vous faites face à la mer, vous pouvez voir des lignes colorées de bateaux traditionnels appartenant aux pêcheurs locaux. Alors que sur le côté gauche, il y a un terminal de transit pétrolier appartenant à Pertamina Société Anonyme. En arrivant à cette belle plage, vous pourrez nager tout de suite en profitant de la fraîcheur de l'eau bleue. Nager sur la plage Amuk Bay est également très confortable car l'emplacement de la plage se trouve dans la baie, ce qui rend les vagues de la mer très calmes. En plus de nager, vous pouvez également profiter de la beauté naturelle sous-marine de la plage Amuk Bay avec la plongée en apnée, la plongée ou les excursions sous-marines. Avec la plongée et la plongée en apnée, vous pourrez profiter de la beauté des récifs coralliens et des poissons colorés. Fait intéressant, ici il y a les activités touristiques de navires sous-marins. La Société internationale Odyssey Submarine Bali offre la seule activité de tourisme de navires sous-marins à Bali en prenant un site de plongée dans la baie Labuan Amuk car la beauté sous-marine de la côte est encore intacte. Amuk Bay a également une colline qui n'est pas moins belle. En arrivant à la plage Amuk Bay, il est temps de gravir la colline pendant 15 minutes pour voir de loin le groupe de collines et la mer bleue. Debout sur cette colline, vous verrez le bleu de la mer ainsi que le mont Agung qui domine de loin. N'oubliez pas de maintenir la politesse et de ne pas jeter les ordures à n'importe quel endroit car la colline Amuk Bay est sacrée par les habitants environnants. Et il y a un temple le long du chemin vers la colline. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir, chers amis, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'Indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'Indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui, intitulé Ada ukuran L, ada ukuran L, en français, y a-t-il une taille L? Maintenant, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Ada ukuran L, ou en français, y a-t-il une taille L? Tony est dans un centre commercial avec Enda. Il choisit une chemise de batik pour lui.
Cari kemeja untuk siapa?
Untuk saya dong.
Ini cukup?
Sepertinya kebesaran. Ada ukuran L.
Saya cari dulu ya.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir, ada ukuran L, ou en français, y a-t-il une taille L? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Anda mencari kemeja untuk siapa? Anda mencari kemeja untuk siapa? En français, vous cherchez une chemise pour qui? Untuk saya. Untuk saya. En français, pour moi. Ini cukup. Ini cukup. En français, c'est assez. Besar. Besar. En français, grand. Kebesaran. Kebesaran. En français, surdimensionné. Terlalu besar. Terlalu besar. En français, trop grand. Sepertinya kebesaran. Sepertinya kebesaran. En français, il semble trop grand. Ada ukuran L. Ada ukuran L. En français, y a-t-il une taille L? Saya cari dulu. Saya cari dulu. En français, je le chercherai. Lorsque vous magasinez pour des vêtements, vous pouvez mentionner la taille. Dans le dialogue, Tony demande un vendeur de chemise de taille L. Ada ukuran L? Ada ukuran L? En français, y a-t-il une taille L? Un autre exemple, Joko, tolong belikan blus untuk Dinda. Tolong belikan blus untuk Dinda. En français, s'il vous plaît, achetez un chemisier pour Dinda. Enda, apa ukurannya? Apa ukurannya? En français, quelle est la taille? Joko, M. En ce qui concerne les pantalons, les numéros sont généralement utilisés. Tony, ada celana panjang? Ada celana panjang? En français, y a-t-il des pantalons? Pramuniaga, nomor berapa? Nomor berapa? En français, quelle taille? Tony, 30. En français, 30. Et ensuite, dans le dialogue, vous entendez Tony a dit, sepertinya kebesaran. Sepertinya kebesaran. Kebesaran signifie trop grand. C'est la même chose avec kekecilan, qui signifie trop petit. Comme par exemple, Enda, kaosnya cukup, kaosnya cukup. En français, la chemise est-elle suffisante? Tony, kekecilan, kekecilan. En français, trop petit. Le mot kebesaran, soit trop grand, ou kekecilan, soit trop petit, sont seulement utilisés dans les conversations, inofficialement, pour la variété officielle utilisée terlalu besar, soit trop grand ou terlalu kecil, soit trop petit. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons encore une fois la conversation ci-dessous.
Cari kemeja untuk siapa?
Untuk saya dong.
Ini cukup?
Sepertinya kebesaran. Ada ukuran L.
Saya cari dulu ya.
Après avoir écouté la conversation ayant pour titre « Ada ukuran L ?»« Ada ukuran L ?» ou en français « Y a-t-il une taille L ?» nous vous donnerons une pratique qui est bien sûr liée au mot existant. Aujourd'hui, cet exercice consiste à décrire votre travail en mentionnant votre nom, profession, lieu de travail, votre temps de travail, à savoir jour, heure de travail, et pose. Comme par exemple, nama saya Andy. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. En pratique, envoyez votre enregistrement vocal en indonésien et il y a un cadeau pour le gagnant. Le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Bon, chers amis, merci à tous et à bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici le magazine musical qui présente la musique traditionnelle et moderne. Pour ouvrir notre programme musical aujourd'hui, nous vous présentons une chanson intitulée Surga di Telapak Kaki Ibu par Victor Hutabarat. Cette chanson parle de la sincérité d'une mère. Bon, chers auditeurs, voici donc Victor Hutabarat avec sa chanson intitulée Surga di Telapak Kaki Ibu. Bonne écoute. Doa putih. Chers auditeurs, vous venez d'écouter une chanson intitulée « Surga de telapak kaki ibu » de Victor Hutabarat, composée par Saïd Effendi. La chanson parle de quelqu'un qui est émotionnellement affecté quand il rappelle la gentillesse, la sincérité et la compassion d'une mère. Pour lui, le paradis se trouve sous le pied d'une mère. En accord avec les paroles de la chanson, la musique de cette chanson évoque vraiment. Étant populaire dans les années 1950, la chanson a été interprétée par de nombreux chanteurs indonésiens, y compris Musin Alatas, Edi Cilitonga et Lesti. Ensuite, écoutons une autre chanson de Victor Hutabarat intitulée « Kasih Sekejap ». Composée par Ismail Marzuki, la chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui a le cœur brisé parce que l'amour de son homme le plus cher pour elle était en un clin d'œil. Elle ne peut qu'espérer que son amant sera heureux. La chanson « Kasih Sekejap » a non seulement été popularisée par Victor Hutabarat, mais a également été popularisée par d'autres chanteurs tels que Edi Cilitonga, Elvi Sukaisi et Cha Chahandika. Même, cette chanson a été fréquemment présentée dans la version de l'arrangement de musique de dangdut. Écoutons maintenant la chanson de Victor Hutabarat intitulée « Kasih Sekejap ». Bonne écoute.
Cintamu hanya sekejap, tiada kusangka.
setiap mata. Lemas rasa seluruh tubuhku, kulihat tanda di jari manismu, tanda ikatan tak boleh diganggu. Gugurlah dalam cita-citaku. Selamat tinggal wahai kekasihku, semoga engkau berbahagia. Berdua di taman bunga, bergurau bersama, bersumpah setia, kasih sekejap hanya kenangan. Cintamu hanya sekejap, tiada ku sangka, tiada ku duga, sampai hati wahai jelita. Di waktu kita berjumpa, berlinang si air mata, tak rela.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée Kasih Sekejap de Victor Hutabarat. Pour finir notre programme ce soir, avec l'édition des chansons malaises, nous aimerions vous présenter une chanson intitulée Cinta Hampa, composée par Ah Khalik. La chanson parle de la fausseté de l'amour qui s'incarne sous forme d'eau sur la feuille de caladium. L'eau se répand facilement lorsque la feuille est secouée. Cette analogie illustre que son amour est facilement perdu quand quelqu'un plus beau que son amant vient. Bon, serviteur, merci de vous joindre à nous. Avant de le terminer, voici la dernière chanson de Victor Hutabarat intitulée Cinta Hampa. Bonne écoute et à demain!
Curah habis tak tinggal lagi.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.